J'aimerais repartir avec vous de ce texte de tout à l'heure, ce psaume 46. Voilà, visiter ensemble tous ces textes qui nous parlent du fleuve de Dieu. Alors un fleuve peut-être parfois symbolique, mais c'est aussi une expérience spirituelle. On verra, elle est présente de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne lira que quelques textes. Peut-être déjà vous avez pu dire, ah, Michel, il va nous faire lire de la Genèse à l'Apocalypse tous les textes sur le fleuve. Non, on n'en prendra que quelques-uns. Mais pour vous dire qu'il y en a pas mal, beaucoup d'expériences sont liées à ce thème, à cette présence du fleuve. Je reprends juste le verset 5 et 6 dans le psaume 46. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Est-ce que dans votre souvenir, Jérusalem est traversée par un fleuve? J'étais à Jérusalem une fois dans ma vie, j'ai cherché. Il y a des sources d'eau qui passent sous la ville de David, dans le tunnel d'Ézéchias. Mais il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas... Et pourtant, un jour, il y en aura un. On verra, c'est un autre texte. Mais dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui s'appelle un fleuve et qui est présent dans toute l'Écriture. Mais on reprend un texte dans le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 47, il est question du temple futur. Et puis là, il y a une expérience un petit peu spéciale qui est faite par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 47, les 12 premiers versets. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins, jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que l'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y eut sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendraient saines. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Gaïm, on étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront pas assainies, seront abandonnées au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira pas, leurs fruits n'auront pas de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Est-ce qu'un jour, dans le royaume qui vient, ce texte que l'on lit sera pleinement réalisé? Peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un récit extraordinaire qui rejoint tous les récits, depuis cet arbre de vie dans le jardin d'Éden jusqu'à ce fleuve qui coule du trône à la fin de l'Apocalypse. On peut lire ce récit aussi comme un symbole, une image de ce que nous sommes. Il écrit quelque part, nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut faire couler un fleuve, un torrent, quelque chose de spécial à l'intérieur de nous, qui assainira notre vie, comme ce torrent assainit la mer là où il coule. Et puis il veut qu'on s'engage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs pas dans ce texte. Tout d'abord, un pied, deux pieds. En Bretagne, on fait comme ça, quand l'eau est à 18 degrés. Ce n'est pas 22, 23 qu'il y a à Tahiti, en Guadeloupe, à La Réunion. Là où l'eau est au-dessus de 20 degrés, chez nous, elle est souvent en dessous de 20 degrés. Donc on met les deux pieds, un pied, puis on se dit, on attend un petit peu, on met un deuxième. Nous avons la possibilité d'expérimenter avec Dieu, d'entrer dans la présence du Père, du Fils et de l'Esprit. Peut-être qu'au départ, c'est que les deux pieds, parce que pour X raisons, on se dit, rencontrer Dieu, c'est pas rien. Et puis, pouvoir y aller avec les deux pieds, pouvoir avancer, et puis d'être jusqu'au genou. Ça fait déjà plusieurs décisions. Un oui pour avancer, puis mettre un pied, deux pieds. Un autre oui pour mettre les jambes jusqu'au genou. Continuer d'avancer jusqu'au rein. Quelle est mon envie de m'avancer dans la vie avec Jésus? Ce texte peut être aussi une image de cela. Le prophète a été guidé. L'Esprit Saint est là pour nous accompagner, pour vivre toutes ces expériences. Il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'est à peu près 2 kilomètres. Vous voyez, c'est un peu comme au Fort Bloqué, où c'est Penthièvre, à l'entrée de Quiberon. Je crois qu'il y a une plage. Avant d'arriver à avoir de l'eau jusqu'au cou, il faut marcher, marcher, marcher. L'expérience avec Dieu peut être un processus progressif. Dieu ne va pas nous immerger, nous noyer tout de suite. 2 kilomètres, ça fait. Il faut s'engager un pas après l'autre. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Ah. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le mot baptême veut dire? Voilà. Bon, le baptême d'eau, on nage pas vraiment, puisque c'est juste une immersion. Comme dit Jean-Marc, au bout de 2 minutes, si on n'est pas remonté, c'est que... Comment faire mourir le vieil homme? Toutes les blagues de ceux qui baptisent. C'est une image de baptême. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai envie de m'engager dans ce fleuve du Saint-Esprit, un pas à la fois? Peut-être que faire les 2 kilomètres, ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que c'est plusieurs pas. C'est plusieurs oui. L'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, il me fit traverser l'eau. Pouvoir être accompagné dans cette découverte de Dieu, par l'Église, par un vis-à-vis de prière, par l'Écriture, dans l'Église, dans les cultes, dans les réunions de prière, mais pouvoir prendre cette décision. Seigneur, oui. 2 kilomètres. Seigneur, je veux être immergé, baptisé, rempli de ton Saint-Esprit. Vous voyez les mots. Parfois, on a beaucoup peur. Hein, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une notion théologique, c'est quoi? Voilà, on va dire c'est être immergé, c'est être rempli, rempli de l'Esprit. Je dis c'est aussi un processus, une expérience à faire, à appréhender, pas après pas. Ça peut prendre du temps. On voit que là, le prophète est accompagné. Dieu va nous accompagner dans cette découverte de l'Esprit Saint. C'est aussi un espoir de renouveau. Ce torrent, ce fleuve qui coule du temple. On a lu un texte, hein, Jésus, juste avant la fête, se tint droit devant eux, puis leur dit qui a soif, qu'il vienne. Qu'ils boivent, qu'ils soient remplis de l'Esprit. Jésus dit cela, voilà, juste avant de monter sur la croix. Et on sait qu'il a dit aux disciples, voilà, retrouvez-vous, puis attendez que l'Esprit Saint descende sur vous. Et on a cette expérience dans la chambre haute. Ils étaient réunis, les 120, les 12, Marie, la mère de Jésus. Il vint du ciel comme un bruit impétueux, ils furent tous remplis de l'Esprit. L'Esprit Saint les a accompagnés. Puis tout d'un coup, Pierre a eu la densité, le poids pour pouvoir se lever puis parler à la foule. Lui qui était encore dans le refus de la reconnaissance de Jésus. Je pense que les 50 jours entre la croix et la Pentecôte ont dû être difficiles pour Pierre. Jésus a dû s'occuper de lui personnellement. Après sa résurrection, il est apparu, et puis il est allé vers Pierre. Il a dit, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes d'amitié? Et Pierre ne peut répondre que, oh, Seigneur, tu le sais. Je pense qu'il avait le cœur broyé. Puis Jésus, 3 fois, lui dit, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes d'amour, Pierre? Et Pierre ne peut répondre, je t'aime d'amitié, parce que il y a une trahison, là, il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et puis Jésus lui dit, mais non, viens, je marche avec moi, et puis voilà, je vais marcher avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Un jour, on te conduira aussi, on t'aidera avec ta ceinture. Mais tous les jours de ta vie, Pierre, je serai avec toi. Ézéchiel, en vision, je pense que c'est une vision prophétique aussi pour tout Israël. Pour nous, ceux à qui s'adresse ce texte aujourd'hui, puisque je suis en train de le lire, quand un texte est lu dans l'Église, c'est un texte qui s'adresse à nous. Est-ce que j'ai envie de faire 1000 coudées? Non, 3 000, 4 000 coudées. 2 kilomètres avec Jésus. Les disciples d'Emmaüs ont fait quelques kilomètres avec Jésus, mais ils ne l'avaient pas reconnu. C'est au moment de partager le pain et le vin le soir, au moment du repas, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus va nous accompagner sur le chemin de la découverte de l'Esprit, c'est-à-dire d'une vie abondante, de quelque chose de plus. Il y a trois baptêmes, il y a trois immersions. Cette décision initiale, le baptême d'eau, « Oui, Seigneur, je crois en toi. Sois sauveur, Seigneur de ma vie. Je crois au Père, au Fils, à l'Esprit. Je crois au pardon des péchés, etc. » Baptême, être rempli de l'Esprit, c'est aussi une décision, une acceptation personnelle. Dieu ne fera pas effraction dans nos vies. Le Seigneur ne fera pas effraction dans nos vies. Il frappe. Je viens, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, eh bien, je partage avec lui. Une autre immersion, un autre baptême. J'en parlerai une autre fois. Un baptême de souffrance. Pierre, est-ce que tu es prêt à me suivre dans la souffrance ? Tous ceux qui entrent dans le service, dans le ministère de l'Église, le vivent. J'avais quelques mois de conversion un soir. Le Seigneur s'est approché de moi et dit, mais est-ce que tu veux servir dans l'Église, mais est-ce que tu es prêt à souffrir ? J'ai fait, Voilà, puis on sait par l'esprit que c'est difficile de faire autrement. La souffrance étant un état inhérent à notre état d'être humain. J'ai dit, je te dis oui intellectuellement et moralement, mais après j'aurais besoin d'être pris par la main. On a besoin d'être accompagné. Chaque baptême a besoin d'être accompagné. On a besoin de renouveler notre engagement initial, pouvoir dire « Oui Seigneur, partage du pain vivant ». C'est à nouveau dire « Oui Seigneur ». Être rempli de l'Esprit, c'est quand je dis l'Écriture, voilà Seigneur, viens éclairer, viens ouvrir l'Écriture par ton Esprit. J'ai besoin de ton Esprit pour lire, pour comprendre l'Écriture, pour comprendre ma vie, comprendre ton action dans le monde. On a reçu une parole pendant le partage du plan divin. Je suis avec vous dans vos chagrins, dans vos difficultés, dans vos souffrances. Peut-être que là, il y a plus de 2 kilomètres. D'une manière ou d'une autre, on souffrira dans la vie. Mais c'est comment l'accepter et comment le porter devant le trône de Dieu. Pouvoir dire à Jésus dans le dialogue avec lui, voilà Seigneur, en ce moment c'est difficile, je traverse des moments difficiles. Immerge-moi, remplis-moi de ta présence pour que je puisse marcher, continuer, faire les pas supplémentaires. Cette eau coulera, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Quand l'Esprit Saint vient dans notre vie devient saine. Première année de vie chrétienne, j'ai dû lutter pour récupérer une raison saine. Dieu est aussi quelqu'un de raisonnable. Quand je me suis converti, j'étais déraisonnable. J'avais coupé avec la famille, coupé avec la société. Je ne m'intéressais pas de travailler. Il y a plein de choses qui ne m'intéressaient plus. Puis je me disais, ouais, cette société-là, elle peut aller sans moi. Et puis, j'ai dû refaire l'écran pour raccrocher ma vie à une vie sociale. Là aussi, il y a de l'aide. J'ai lu les proverbes pendant des mois. Et puis, je disais, Seigneur, essayer de me faire comprendre ce que c'est que ces proverbes, comment vivre avec une intelligence renouvelée, une raison saine. Sur le torrent, sur les bords, chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira pas, leurs fruits n'auront pas de fin, ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, les fruits serviront de nourriture, leurs feuilles du remède. Tout ce qui sort du temple, du sanctuaire de Dieu, qui vient dans notre sanctuaire, dans notre temple, nous apporte la paix, la guérison, des remèdes. L'Écriture, c'est comme des feuilles, comme ces feuilles qui peuvent guérir nos vies. L'écriture est naturopathe. Une guérison par l'écriture, pouvoir proclamer l'écriture dans nos vies, parole vivante de Dieu. J'aimerais relire avec vous deux textes, un dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Jean 4. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jean 4, versets 10 à 15. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que son fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Une rencontre avec le Christ Jésus, c'est une rencontre avec une source d'eau. C'est pouvoir la laisser couler en nous. Il t'aurait donné de l'eau vive. Il y a un don de Dieu en Jésus-Christ qui est bien au-delà, bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant, bien plus étendu que ce que l'on pense. L'expérience de vie avec Dieu est infinie. Il y en a pour tous les jours, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, autant de jours que Dieu met à notre disposition. J'aimerais lire encore avec vous dans le livre de l'Apocalypse. On lira la Genèse après, puis on aura pratiquement fait le tour dans l'Écriture. Apocalypse chapitre 21. Les versets 1 à 5. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Premier ciel, première terre avait disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. » Des choses merveilleuses nous attendent. Et cette expérience du fleuve, de la source, des ressources de Dieu ne sera jamais terminée. Ça va durer jusque dans la vie éternelle. Il y a un jour où du temple de Dieu va couler quelque chose d'extraordinaire. Il peut couler déjà dans notre vie, dès aujourd'hui. Demain, chaque jour, que Dieu fait à celui qui a soif. je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. J'aimerais lire encore un autre texte avec vous, c'est la suite dans Genèse 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Une vie et des expériences merveilleuses nous attendent. Mais c'est déjà disponible dès aujourd'hui. Du Christ en croix coule quelque chose de merveilleux. Ce sont des images. Mais en mourant sur la croix, Christ a fait une brèche dans le désert, dans nos solitudes, dans nos difficultés, dans nos choses difficiles à supporter. Et son regard sur nos vies est un regard d'amour, comme une source, comme un fleuve, quelque chose qui touche nos vies. Et il envoie des feuilles, des remèdes pour guérir nos vies. Tous ces textes, si on les lit de Genèse à l'Apocalypse, nous promettent des belles choses, pas seulement à venir. Pour moi, c'est déjà dès aujourd'hui. On lit encore Genèse 2, 7, 14, comme ça on aura fait tout le tour avec juste quelques textes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu planta un jardin Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 branches. Dieu n'a jamais renoncé à son idée première. C'est-à-dire que l'homme soit dans un endroit agréable, avec une source. Et c'est vrai que par l'abandon ou le refus de l'arbre de la vie, Adam et Ève ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont entrés dans ce baptême de souffrance qui fait que toute vie humaine est aussi accompagnée par la souffrance. Mais Dieu n'a jamais perdu de vue ce qu'il voulait faire au début. C'est pour ça qu'on a tous ces textes. Il aurait aimé qu'Israël, Israël a vécu plein d'expériences, hein, traversé de la mer Rouge, traversé du Jourdain, plein d'immersions, de baptême, de traversée, de fleuve. Et puis, il y a cette image récurrente dans toute l'Écriture. Du temple de Dieu dans le ciel, du sanctuaire, coule un fleuve. Et depuis la croix, il coule pour tous les hommes. Christ, agneau de Dieu, est pour chacun d'entre nous une source. Puissions-nous faire les 2 kilomètres, accompagné par l'Esprit, pouvoir jour après jour dire oui Seigneur. On dit c'est quoi être rempli de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. On a l'impression que c'est une expérience que pour quelques-uns. C'est simplement chaque jour oui Seigneur. Aujourd'hui c'est un jour difficile. Eh bien Seigneur, je veux continuer de m'appuyer, je veux continuer de compter sur toi. Dans ce lieu, depuis 30 ans, 40 ans avec Jean-Marc, on n'a jamais dit que l'Évangile Toute la vie est extraordinaire. On allait tous devenir des chefs d'entreprise, gagner des millions de dollars, avoir une Tesla. Et aujourd'hui, c'est plus une Porsche. Hein. C'est une Tesla, une voiture électrique. J'en ai vu deux passer hier au Fort Bloqué, toutes neuves. Waouh, c'est classe aujourd'hui. Évangile de la prospérité. Non, l'évangile, c'est aussi marcher avec Dieu au jour le jour, assumer la réalité de nos vies, les choses concrètes de nos vies. Et j'aime à savoir que notre Dieu est aussi un Dieu qui est concret. Et que si on place devant lui des demandes, des aspirations, des choses concrètes, il est aussi celui qui répond. On prend un dernier texte qui est dans Zacharie, prophète pratiquement la fin de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 14. Si je l'avais mis dans la base de données. Zacharie 14, voici le jour de l'Éternel arrive. Les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Ressemble à des choses qui se passent en ce moment. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée, dans mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura le froid, la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été hiver. L'Éternel sera roi de la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Son nom sera le seul nom. J'aime la géopolitique, j'aime réfléchir au destin des nations. Un jour, les nations vont se liguer contre Israël et contre Jérusalem, parce que c'est l'empêcheur de tourner en rond. Et un jour, les chefs des nations diront, il y en a marre d'Israël, de Jérusalem, des Palestiniens, du Moyen-Orient, que des ennuis avec ces gens-là. Donnons-leur une raclée. Il y a encore quelque temps, c'est vrai que ça paraissait très loin, très improbable. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, 3 mois de guerre là en Ukraine, quand on voit la dinguerie que c'est, je me dis, ah, Jérusalem, pour le moment, il n'y a pas encore de fleuve. Au retour de Jésus, il a dit qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et quelque chose va changer. Est-ce que Jésus peut poser ses pieds dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, faire une brèche et faire couler des torrents d'eau? On a lu tous ces textes, voilà, ils peuvent être aussi pour nous comme une allégorie, texte symbolique, mais c'est aussi une véritable expérience avec Dieu. Est-ce que j'ai envie de prendre le temps pour faire les 4000 coudées, les 2 kilomètres, marcher avec Jésus, puis lui demander de remplir ma vie de l'Esprit? On va rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de nous donner soif de toi, soif de Jésus, soif de l'Esprit, soif de ta parole, soif de vivre en Église aussi. Merci de cette soif que tu veux combler. Merci pour cette source qui coule de ton temple, qui coule du trône, qui coule du cœur de l'agneau, qui coule de la croix. Seigneur, ce sont des images, mais en même temps, c'est une réalité que tu veux, dans laquelle tu veux nous faire entrer, que tu veux nous faire connaître. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, et je veux connaître cette source d'eau. Je veux connaître cette source qui coule jusque dans la vie éternelle, jusqu'à ton retour, que tu reposeras les pieds sur Jérusalem, mais déjà aujourd'hui, pose tes pieds dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon intelligence, dans tout ce que je ne vis pas, tout ce que je ne comprends pas encore, tout ce qui n'est pas à toi encore. C'est vrai qu'il y a un chant qui dit, oui, prends tout, Seigneur, voilà, prends nos vies. Aide-nous à faire tous ces pas vers toi. Aide-nous à recevoir, à vivre de cette source. Amen. Amen. Merci de votre écoute. Quelques...